Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. On estime que près de 57 000 réfugiés resteront encore bloqués en Grèce durant l'été. Impossible pour eux de continuer leur route vers d'autres pays européens. Et l'incertitude sur leur avenir est une source d'inquiétude évidente. Pour partager des informations essentielles, certains d'entre eux, aidés par des professionnels, ont lancé Radio Shabab. Shabab, cela veut dire jeune en arabe. Et sur ce nouveau média, ils essaient de parler du présent et de l'avenir. Charlotte Stevenard a assisté à Athènes à l'une de leurs émissions.
Bienvenue sur Radio Shabab pour notre premier épisode, le salon des relocalisations avec
Azad,
and me Tariq,
and me George,
et notre invité
Amin.
Welcome.
Bienvenue. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
C'est dans cette petite pièce insonorisée du Cube, une pépinière pour entreprises, que Stéphanie Sisowski, une des fondatrices du projet, commence l'émission. Tariq Wadi, un Syrien de 26 ans aux nombreux tatouages, donne des détails sur le sujet principal, les relocalisations, un programme européen qui permet d'envoyer légalement des réfugiés de la Grèce vers un autre pays de l'Union européenne.
Avec nous dans l'émission, il y a plusieurs personnes. Il y en a un qui va partir en France, un autre en Espagne et un autre à Chypre. Pour Chypre, c'est notre ami Georges. Et pour la France, on voulait parler avec Moder, mais Moder n'est pas là. Je ne sais pas où il est.
Et vous êtes habitué à parler à la radio ?
Non, pas du tout. Je suis plutôt habitué à parler devant les gens. À la radio, c'est la première fois.
Presque tous les participants sont réfugiés, sauf Stéphanie Sisowski, une Allemande d'origine polonaise qui a étudié le journalisme à Athènes. Elle a fondé la radio en mai avec un Syrien. Elle l'appelle par Skype pour une vidéoconférence.
Shabab, nous sommes de retour. Devinez qui est avec nous. Notre cher boss Ahmed d'Espagne. C'est l'un de nos membres fondateurs et il a été relocalisé en Espagne, à San Sebastián, il y a 3 semaines.
Ahmed Ayash est lui-même réfugié syrien. En Grèce, alors qu'il attendait d'être relocalisé, il a profité de son temps libre pour aider ses compagnons d'infortune qui dorment au port du Pirée. C'est comme ça qu'il a rencontré Stéphanie, bénévole, elle aussi. Ils ont été effarés par le manque d'informations disponibles pour les réfugiés. Lors d'une rencontre organisée au Cube sur le thème de l'entrepreneuriat dans les médias, ils ont décidé de prendre les choses en main.
Nous voulons offrir de véritables informations aux réfugiés. Quand nous étions bénévoles au port du Pirée, les migrants entendaient par exemple que la frontière était ouverte. Certains y allaient et c'était faux. Il y a aussi le programme des relocalisations. La plupart des réfugiés ne savent pas comment obtenir l'asile, faire une demande et se mettre en contact avec les officiers chargés du programme des relocalisations. C'est pour cette raison que nous avons voulu créer cette station de radio, pour qu'ils sachent tout ça, de véritables informations.
L'émission se poursuit avec l'interview de Georges Nounet. Ce bénévole syrien de la radio doit partir le lendemain pour Chypre. C'est un des autres rédacteurs, Azad Hamidi, un Afghan, qui lui pose des questions.
En ce qui concerne l'identité, qui peut faire une demande de relocalisation ?
Je ne suis pas sûr. Les Syriens, les Irakiens ?
Les Syriens, les Irakiens et quelques autres nationalités.
Et les Afghans ?
Ils ne peuvent pas.
Azad Hamidi connaît bien le problème, il est lui-même Afghan. Ils n'ont pas accès aux relocalisations car le taux d'acceptation de leurs demandes d'asile en Europe est trop bas, une politique des chiffres qu'il dénonce. Son collègue et ami Georges Nounet explique que ce sont ses expériences personnelles qui font la force du projet.
Je suis réfugié, donc j'ai l'expérience du réfugié. Je sais pourquoi ils sont inquiets, ce qui leur fait peur, leurs problèmes, car j'en fais partie. Je ne suis pas différent.
Dans cette petite radio associative, certains partent, d'autres arrivent. Pour Stéphanie Sisowski, c'est une opportunité de la faire grandir.
Nous allons devenir un réseau européen de radio avec des équipes composées à chaque fois de locaux et de réfugiés. Et oui, nous avons encore beaucoup de chemin devant nous, mais nous sommes prêts.
En attendant, à Athènes, la radio se construit petit à petit malgré les difficultés. Elle cherche actuellement un nouveau studio.
Ils ont été au cœur de la campagne pour le Brexit et ils pourraient aussi compter dans les négociations pour le départ du Royaume-Uni de l'UE. Les immigrés européens imaginent leur future vie britannique avec une certaine dose de fébrilité. Comment le nouveau Premier ministre, en l'occurrence Theresa May, va-t-elle gérer le statut des résidents polonais, français ou allemands ? C'est le reportage de Marie Billon.
Le Royaume-Uni retient son souffle depuis le 24 juin. David Cameron n'est Premier ministre que de nom et ne prendra aucune décision concernant les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais aujourd'hui, le calendrier s'est accéléré lorsqu'Andrea Leadsom a décidé d'abandonner la course. Theresa May est donc la prochaine Première ministre. Et sur le statut des Européens après la sortie effective de l'UE, elle ne s'engage à rien.
Actuellement, nous sommes toujours membres de l'Union européenne et les traités sont toujours en vigueur. Rien ne change donc pour le moment. Mais bien sûr, quand les négociations débuteront, nous devrons nous pencher sur le statut des ressortissants européens qui vivent au Royaume-Uni et je veux m'assurer qu'on n'offre pas de garantie uniquement à ces personnes-là, mais aussi aux Britanniques qui vivent dans d'autres pays européens.
Ce discours a notamment surpris Aïda, une Française qui vit à Londres depuis 18 mois et qui ne pensait pas que son avenir au Royaume-Uni pouvait être remis en cause par un Brexit.
C'est navrant et ça crée, je dirais, un niveau supplémentaire d'inquiétude et d'incertitude. Devoir partir ou être forcé à partir est avant tout une réalité qui entraîne un sentiment d'être victime. C'est une question qui se pose et qui reste bien évidemment dans mon esprit pour l'instant, de la même façon que c'est dans l'esprit de beaucoup de Français qui habitent ici et qui ont peut-être encore plus, je dirais, un investissement et familial et professionnel que moi.
Aïda a choisi Londres parce que l'environnement est favorable aux entrepreneurs et elle ne se voit pas revenir en France. Clément, lui, a 29 ans, il est arrivé à Londres il y a 8 ans, il est prof de français à domicile et travaille dans une agence de traduction. Il est dans une relation amoureuse stable avec un Britannique. Revenir en France serait donc très dur pour lui.
C'est assez frustrant parce qu'on aimerait bien savoir ce qui va nous arriver. Mais en même temps, étant donné le chaos général dans le pays, la situation politique, c'est un peu attendu. J'espérais quand même que non. Non, parce qu'après 8 ans, avec toutes les garanties que j'ai, je pensais quand même que je serais assez sûr de pouvoir rester. Mais là, en entendant l'actualité, il n'y a plus rien de sûr, quoi.
Selon les juristes, les traités en cours quand les ressortissants sont arrivés au Royaume-Uni sont ceux qui font foi. Mais encore faut-il qu'ils puissent prouver qu'ils habitent dans le pays depuis assez longtemps. L'après-Brexit reste de toute façon une période de très grande incertitude où tout est à négocier.
La lecture n'est pas un plaisir. Elle est souvent une corvée.
Lire, c'est une joie, c'est un plaisir.
Livre.
Livre.
Goodbye Europe, c'est le titre prémonitoire du livre qui est sorti il y a quelques mois et qui est signé par l'eurodéputée Sylvie Goulard. Cette élue sans concession a expliqué à Catherine Roland que les responsables du Brexit sont à chercher parmi les 27, mais tout d'abord aussi et bien sûr au sein de la classe politique britannique.
Le Premier ministre a cru pouvoir en quelque sorte utiliser l'Europe à des fins personnelles à l'intérieur de son parti. Et il a lancé ce référendum sans réfléchir aux conséquences potentielles, aussi bien d'ailleurs pour l'Union européenne que pour l'unité de son propre pays. Et puis, on a eu une partie de son parti et le parti indépendantiste UKIP qui se sont précipités dans la bataille pour la sortie, qui ont fait des déclarations fanfaronnes, très souvent mensongères. Et ils l'ont reconnu avec un cynisme incroyable quelques heures après le vote. Donc tout ça, je crains que ce type de phénomène puisse se produire ailleurs et que nous entrions dans une phase où des vertus, la raison, la pondération, le respect du débat démocratique sont en train d'être perdus de vue.
Alors, les dirigeants britanniques, notamment David Cameron ou Boris Johnson, ont joué avec le feu et en même temps, maintenant, ils ne veulent plus vraiment déclencher la procédure de sortie, en tout cas pas immédiatement. C'est un drôle de message qui est lancé à l'Union européenne.
Mais ce n'est pas un message entièrement négatif, si on y réfléchit bien. C'est que c'est très facile de jouer à se faire peur ou à se faire plaisir ou à inventer une souveraineté nationale pure et parfaite. Mais lorsqu'il s'agit vraiment de regarder la réalité en face, avec toute la technicité qu'imposent les dossiers actuels, on se rend compte que ce n'est pas facile du tout.
Vous avez écrit il y a quelques mois le livre en titre prémonitoire « Goodbye Europe » et vous êtes très sévère envers l'Union européenne également. Vous reprochez aux autres dirigeants européens d'avoir laissé faire le Premier ministre britannique, d'avoir été finalement d'une mollesse assez coupable.
En 2013, David Cameron donc a promis ce référendum en disant certaines choses justes sur le danger pour l'Union européenne de se faire distancer dans le monde ou sur la désaffection des citoyens, auxquelles il fallait à mon sens répondre. Et il a dit des choses fausses sur la nature du projet européen, qui pour lui n'était qu'un marché, sur l'absence de démocratie au niveau européen. Et tous ces mensonges n'ont pas été démentis par les autorités des pays européens. Parce que on se rend compte que quand il y a des batailles à mener pour défendre l'Europe, le nombre de gens qui sont prêts à prendre des coups pour elle est limité. Et c'est de ça dont on souffre.
Autre souci dont vous faites l'écho à propos de cette Europe tant décriée, tant critiquée, vous dites finalement on ne vend plus de projets, on ne vend plus d'espoir. Les dirigeants, quand ils vendent l'Europe, ils disent c'est l'Europe, sinon c'est le chaos, rien de plus.
Oui, le référendum britannique, à mon sens, a été largement perdu là-dessus. Et effectivement, il est très dommage que vis-à-vis notamment des jeunes générations, les autorités nationales ne soient pas capables de remettre une vision d'ensemble tournée vers l'avenir autour de sujets comme le numérique, la transition énergétique qui est nécessaire pour lutter contre le changement climatique, la lutte contre la pauvreté dans nos pays et dans le monde. Quand je discute avec des jeunes, qui souvent d'ailleurs s'engagent dans des chantiers humanitaires, je suis très frappée de leur sensibilité à ces questions. Et sur ces sujets-là, non seulement l'Europe est pauvre, mais le Conseil européen, composé des chefs d'État et de gouvernement, a fait très peu de propositions. Donc effectivement, les êtres humains ont besoin de se mobiliser. L'idée européenne est une très belle idée. Il y a des choses qui ont été ratées, mais comme dans la vie, ça arrive qu'il y ait des choses qui soient ratées. C'est un peu dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain.
Oui, d'autant qu'il faut peut-être rappeler ce qu'est à l'origine le projet de la communauté européenne, qui était un projet plutôt ambitieux et solidaire.
Oui, je crois qu'il faut arrêter d'avoir honte de faire l'Europe. Qu'ont voulu les pères fondateurs après la Seconde Guerre mondiale ? Ils ont voulu la paix entre les États membres, mais ils ont voulu surtout défendre un modèle de société solidaire dans lequel il y a des prestations sociales, il y a des transferts de revenus entre les riches et les pauvres, il y a une éducation, une santé accessible pour tous. Et ce sont ces acquis-là que nous devrions beaucoup plus défendre ensemble, en mettant un peu sous le boisseau nos rivalités de court terme et en réalisant à quoi ressemble le monde. C'est un monde dans lequel le dynamisme démographique n'est pas en Europe, dans lequel la créativité, l'innovation technologique en ce moment sont plutôt aux États-Unis, en Corée, en Chine, etc., même si nous avons encore un énorme potentiel, il ne faut pas non plus noircir le tableau. Donc, on est dans un monde plus compétitif, avec plus d'acteurs, avec beaucoup de jeunes qui aspirent à une vie meilleure, et des défis considérables, et des menaces vitales pour la planète. Le changement climatique, on en a beaucoup parlé l'année dernière, on a l'impression que maintenant plus personne n'en parle. Le terrorisme, avec son fanatisme et son lot de cruauté, malheureusement, est bien là et frappe partout dans le monde.
En même temps, les populismes ne se sont jamais aussi bien portés. Et quand on parle de risque de sécession, là on n'en est pas encore tout à fait là, mais la Hongrie déjà annonce, elle aussi, un référendum, et cette fois-ci sur les migrants.
Non, mais la question du référendum hongrois est absolument honteuse. Si vous demandez à des gens, est-ce que vous acceptez que l'Union européenne, contre votre volonté, prenne des décisions, vous aurez toujours une réponse qui sera non. Donc je crois qu'il faut dénoncer les populistes tant qu'il est encore temps. Il faut arrêter de se laisser prendre à leur jeu patriotique en carton-pâte. Si on ne dénonce pas à l'avance ce qu'ils peuvent apporter comme méfaits, ensuite nous n'aurons que nos yeux pour pleurer.
Goodbye Europe de Sylvie Goulard est publié aux éditions Flammarion. Aujourd'hui, on ne parle sans doute que du ballon rond et de la victoire en finale de l'Euro 2016, mais sur l'île portugaise des Açores, on brandit depuis des décennies un autre sujet de fierté, de forme ronde ou ovoïde, comme on voudra, l'ananas. Celui qui est produit sur cette île au large de l'Atlantique est un produit de luxe qui n'est vendu en Europe que dans les épiceries très fines. Anastasia Becchio a cherché à comprendre le secret de sa saveur si particulière.
C'est le roi du marché de Ponta Delgada, la capitale de l'île de San Miguel. L'ananas trône en bonne place sur tous les étals. Ricardo en vend plusieurs dizaines chaque jour, aux locaux, mais surtout aux touristes.
Il a un goût très fort. Il est différent des autres ananas. L'arôme est plus prononcé et il est plus acide. Il est meilleur.
Grâce à son acidité plus marquée que celle de son cousin antillais ou portoricain, l'ananas des Açores possède un arôme plus relevé, un goût unique qui tire son origine de son mode de production bien particulier. L'hiver étant un peu trop frais pour le fruit, il est cultivé exclusivement sous serre. À quelques kilomètres de Ponta Delgada, la plantation Augusto Arruda. Une vingtaine de serres blanches sont alignées le long d'une allée. Rui Medeiros est responsable de leur entretien.
Ici, c'est le début. C'est un peu le jardin d'enfants des petits plants. Ils restent ici 6 mois et à la fin de ces 6 mois, ils sont transportés dans la serre d'à côté parce qu'ils auront alors besoin de plus de place. Quand les plants d'ananas grandissent, ils prennent de l'ampleur et ils doivent être distants de 60 cm les uns des autres. Ces plants-là ont environ un an. Ils vont passer par un processus d'enfumage. On a découvert ces bienfaits par hasard il y a longtemps. En temps normal, les fruits mûrissent à des moments différents. Mais un jour, il y a eu un incendie dans une serre et ils ont constaté que leurs plants avaient tous fleuri en même temps. Du coup, grâce à cet enfumage, les fruits mûrissent tous en même temps.
Après la phase d'enfumage aux feuilles de bananier, l'ananas passera dans une autre serre où il arrivera à maturité. Au final, il aura mis 2 ans à pousser avant de pouvoir se retrouver dans les assiettes. Appellation d'origine protégée, l'ananas des Açores est source de fierté pour l'archipel. D'ailleurs, pour les Açoriens, seul le fruit qui pousse aux Açores est digne de porter le nom d'ananas. Pour tous les autres, le portugais a un autre mot.
L'ananas, c'est seulement aux Açores. Sinon, on dit abacashi. C'est là que commence la différence.
Une différence que le président de la puissante association agricole des Açores, Georges Rita, aime mettre en avant.
L'ananas des Açores a un mode de production unique au monde. C'est une production difficile qui demande beaucoup d'investissement. Ça coûte cher, très cher de produire un ananas. Il faut attendre 2 ans pour avoir un fruit et il faut beaucoup de main-d'œuvre. C'est pourquoi l'ananas est le produit des Açores qui reçoit le plus d'aide de l'Union européenne.
Les producteurs d'ananas reçoivent 6,53 euros par mètre carré de culture au titre du programme d'option spécifique à l'éloignement et à l'insularité de l'Union européenne. Produit en relative petite quantité, il est vendu essentiellement au Portugal et dans les épiceries fines européennes. Mais sur l'île de San Miguel, il trouve aussi d'autres débouchés. La plus grande fabrique de liqueurs de l'archipel, Mulher da Capote, fabrique 2 sortes de liqueurs d'ananas. Eduardo Freira est le patron de cette entreprise familiale qui emploie 21 personnes.
Ici, on a une cuisine, c'est là que mon fils travaille. Nous n'avons pas de technologie moderne parce que la liqueur doit être produite de manière artisanale. Tous les produits nous arrivent frais ici. Nous n'achetons pas de concentré et tous les fruits sont coupés à la main. Parce que nous savons que parfois, lorsqu'on coupe un fruit, il peut sembler très bon de l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, il n'est pas si bon que ça. Or, la machine, ça, elle ne le sait pas. C'est ici que la liqueur est produite. Ensuite, il y a le vieillissement. Il faut attendre 2 ans avant que les bouteilles n'arrivent sur le marché. C'est un long processus.
Dans un coin de la fabrique, les liqueurs sont vendues aux touristes. Après la visite, c'est l'heure de la dégustation. Parmi la 50aine de personnes qui viennent de débarquer, Paul du Minnesota.
C'est bon, c'est vraiment doux. C'est un goût différent de l'ananas traditionnel, je ne m'y attendais pas, mais c'est vraiment bon. Je vais sûrement en acheter pour en rapporter chez moi.
Si l'ananas produit en quantité limitée est un produit rare, en dehors du Portugal, la liqueur en revanche s'exporte dans de nombreux pays, du Canada à l'Afrique du Sud.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé avec le soutien de la direction de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. À demain. 7 milliards de voisins.